Le premier à tomber au Québec, c'est Éric Salvaire. Moi, je faisais de la radio avec Éric, puis il s'est jamais essayé avec moi, puis j'ai appris plein d'affaires de lui. Tu sais, moi, je suis un gars de podcast, mais Éric connaissait plein d'affaires en radio que moi, je connaissais pas. Je savais pas qu'il y a une vieille tradition en radio qu'apparemment les collaborateurs, avant chaque émission, donnent un bec sur le bout du pénis à l'animateur, ça! Puis le dernier à le faire, c'est un peu salé. Je le savais pas, hostie! C'est M. Salvaire qui nous a appris ça. Mais moi...
OK, précision, deux, trois affaires, là.
C'est bonjour, pas Mike Ward. Vraie...
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va, oui. Moi, je suis animateur ici, hein.
Ouais.
J'ai des collaborateurs sur cette émission. Et je veux juste spécifier, je sais que tu as travaillé ailleurs, mais c'est pas ça ici.
OK. C'est bon à savoir.
Mike, est-ce que tes blagues te font rire encore?
Oui, mais surtout que moi, mes blagues, j'y modifie pas mal à toutes les soirs. Fait que là, c'est tout le temps stressant. Quand j'écoute un extrait, je me demande tout le temps, désolé,
mais ce soir-là,
moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau.
Je pensais que c'était mauvais là, d'en parler, justement,
ouais, j'étais de changer tes jokes. Non, à chaque fois, je me demande tout le temps, c'est qu'est-ce que j'ai dit ce soir-là? C'était quoi la fin? Fait que c'est plus stressant que le fun de m'écouter.
Ah non, mais là, ça part parce qu'il y a une anecdote. Tu pars sur le Me Too pendant une grande partie du spectacle. Pour toi, de parler d'abus sexuels, ça venait chercher quoi? Pourquoi tu avais envie de défendre ça?
Bien, je défends pas l'abus sexuel.
Non, pas défendre, mais le Me Too, en fait.
Mais c'était surtout... moi, pendant que c'est arrivé au Québec, tu sais, je connaissais bien Éric Salvaire, tu sais, vu que je travaillais avec à radio. Puis Gilbert Rozon, je faisais son festival à chaque année depuis 25 ans. Puis je voulais en parler, puis je voulais pas en parler. Il y a beaucoup de monde qui en a parlé dans les réseaux sociaux. Puis je trouvais que c'était un sujet que je voulais plus... je voulais en parler vraiment longtemps, puis pas juste faire un statut de « je suis avec les victimes » ou peu importe. Je voulais vraiment en parler, puis j'avais remarqué que la plupart des gars pendant le hashtag MeToo pointait d'autres gars du doigt, puis ce qu'on devait faire, puis c'était normal qu'on le faisait. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui se posait des questions sur leur comportement. Puis moi le mouvement hashtag MeToo m'a fait capoter à quel point je voyais rien. J'avais rien vu de ça. Tu sais, je voyais Gilbert, j'avais rien vu. Dans les années 90, début 2000, ma blonde avait travaillé juste pour rire. C'était moi qui avais appelé pour la faire rentrer là. Puis là, quand je voyais ça, j'étais comme, voyons, tu sais, pourquoi j'ai rien vu de ça? Puis je me suis questionné là-dessus, puis en me questionnant là-dessus, ça a fait que moi, aussitôt que je me questionne sur n'importe quoi, je pense à des jokes, même quand j'essaie d'être triste ou sérieux. C'est mon réflexe, je pense tout le temps à des jokes. Fait que c'était juste vraiment humainement, je voulais penser comment je me sentais par rapport à ça. Puis il y a eu plein de jokes qui sont sortis, puis je les ai notés, puis ça donne un numéro.
C'est assez corrosif comme type d'humour.
Oui.
Il y a eu l'épisode de Jérémy Gabriel. Est-ce que maintenant tu fais relire tes textes par des avocats? Non.
Non. Puis même par personne. La première fois que quelqu'un entend mes jokes, c'est le public sur scène.
Sérieux? Il n'y a pas de metteur en scène avec qui tu travailles?
Mon metteur en scène, je travaille avec Daniel Fortin depuis plusieurs années, mais je rode mes affaires avant d'y donner. Pour ce show-là, j'avais fait une heure de show au Festival Mobilo à Montréal, puis je l'avais enregistré, puis j'avais envoyé, puis j'avais dit ça va être ça l'essence du show. Mais j'aime ça créer mes affaires seules. Je te parle du matériel, puis le metteur en scène, Daniel, il est tellement bon pour l'habillage du show, puis le look du show, puis c'est lui, tout ce qui est poster, tout ce qui est image, c'est lui, mais tout ce qui est création humoristique, c'est 100% moi.
Et évidemment, tu assumes tout ce que tu dis sur scène, ça paraît, là, je veux dire, t'endosses toutes tes blagues, mais est-ce que t'as peur quand même des fois d'aller trop loin?
Non, mais là, avec ce show-là, puis c'est vraiment à cause de mon procès que ça fait ça, j'ai dans mon numéro d'ouverture, je parle de deux des membres de la Commission des droits de la personne qui ont perdu leur job suite à des scandales de pédophilie, et il y en a un, puis j'ai nomme leur nom, puis il y en a un qui a plaidé coupable. Fait que lui, je le traite de pédophile. L'autre, il a été accusé, puis il a réglé ça hors cours. Fait que, tu sais, il y a 5 ans, je l'aurais traité de pédophile, mais là, je dis, il a été accusé de pédophilie. On dirait, c'est mon réflexe de ça. Si je me refais amener en cours pour ça, ça va être défendable à 100%. Puis j'ai un ami qui est avocat, qui est venu voir mon show, que je savais même pas qu'il allait venir voir le show, puis il a dit tout le long, je t'écoutais, puis je me disais, hey boy, ça. Puis il a dit, à chaque fois, tu sais, les mots que tu utilisais, ils peuvent rien faire, vu que c'est j'accuse pas des, tu sais, monsieur, madame, tout le monde d'être pédophile. J'accuse du monde qu'il y a eu des articles dans le journaux, puis j'utilise dans les journaux, j'utilise les mêmes termes qui ont été dits dans la presse ou dans le journal de Montréal.
Mais est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont dit, avec ce numéro-là, dire, come on, Mike, pourquoi tu vas là? Pourquoi tu passes pas juste par-dessus?
Non, il y a personne, même parce que moi je voulais parler de mon procès, mais je voulais que le monde comprenne. Moi, j'ai rien contre Jérémy Gabriel, j'ai rien contre sa famille. Moi, c'était vraiment contre la Commission des droits de la personne. Je voulais faire un numéro, puis je me dis, peu importe l'angle que je fais, ça va tout le temps revenir à mon procès. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait deux personnes dans la commission qui ont perdu leur job pour ça, j'ai fait, ah, ça me fait une façon d'attaquer la commission sans parler de mon procès. C'était, puis je suis l'humain le plus rancunier de l'histoire. Puis tout le monde qui me connaît le sait que s'il y aurait rien à faire. Peu importe ce qu'il me dirait, j'aurais fait le numéro.
Est-ce que tu as le tempérament de, quand on dit ne fais pas ça, t'as envie d'y aller?
Ouais, mais je pense que tous les humoristes sont ça. On est à base des enfants, tu sais. Moi, tu sais, à chaque fois, puis ça, je l'ai remarqué dans les dernières années, j'ai fait bien des shows dans bien des pays que l'humour est vraiment plus touché, comme les Émirats arabes puis la Chine. Puis à chaque fois qu'on me disait, fais pas une joke sur telle affaire, là, j'étais tout le temps, pourquoi? Pourquoi? Puis là, j'essayais de voir jusqu'à où je pouvais aller. Puis ça, je pense que j'ai toujours fait ça, puis je pense que je vais toujours le faire. Je pense, par exemple, avec mon procès, là, maintenant, je suis plus conscient que mon humour sort de la salle. Tu sais, puis ça, c'est depuis l'ère des réseaux sociaux, je pense que c'est de même, puis c'est ça la vie. Puis au début, vu que moi, j'avais commencé avant, je le réalisais pas, mais là, je le réalise à cette heure, puis je me suis adapté.
Est-ce que tu penses qu'à suite à ça, puis à cet épisode-là, t'es devenu un actif toxique pour ce qui est les médias plus généralistes, par exemple?
Je suis content que les podcasts existent pour ça, parce que comme moi, j'ai toujours adoré faire de la radio, mais je suis conscient, puis je le sais pourquoi, il y a aucun poste de radio qui me donnerait un show radio. On m'invite, puis je pense que les gens sont contents de m'avoir comme invité ou comme collaborateur, mais l'idée d'un show, moi j'ai toujours voulu faire ça, mais puis je suis trop dangereux, tandis que c'est ça la beauté d'un podcast, vu que c'est moi qui le produis, puis c'est sur Internet. C'est impossible de perdre ma job, ou pratiquement.
Ben, on en parlait avant d'entrer en onde, ton podcast, ta balado, est la plus téléchargée, du moins dans le monde de l'humour, puis oui, probablement oui. Au Québec. Les gens sont en soif, par contre, d'avoir quelque chose de direct, de cru, de corrosif.
Moi, ce que j'aime du monde des podcasts, c'est que c'est très niché. Fait que si, mettons, toi, tu tripes ça pêche, puis t'as le goût d'entendre deux personnes parler de pêche pendant 3 heures de temps, chose qu'ils pourraient pas jouer à radio parce que ça l'attire 4 personnes, mais dans le monde des podcasts, tu peux faire ça. Moi, quand j'avais commencé mon podcast, j'ai commencé en 2011. Au début, il y a personne qui écoutait, tu sais. Puis je calculais quasiment ça. Les premières semaines, c'était décourageant parce que tu dis, j'ai fait tout ça, puis il y a juste 500 personnes qui écoutent. Mais après, je me dis, 500 personnes, c'est comparable, mettons, au Jésus. Fait que c'est comme si j'ai la salle de spectacle, le Jésus qui m'écoute. Puis après, ah, là, c'est comme le Centre Bell. Puis après, hey boy, là, c'est comme si Trois-Rivières m'écoutait. Puis là, on est rendu à 1 million d'écoutes par mois. Fait que pour un show qui tu sais, c'est moi qui a parti ça. Au début, j'étais seul, puis après, mon gérant est embarqué. On a engagé Yann Thériault, qui est le réalisateur. J'ai mon ami Jason au Nouveau-Brunswick qui s'occupe des réseaux sociaux. On est quatre personnes, puis on gère. C'est quasiment devenu une petite entreprise.
Tu as donné beaucoup de spectacles en anglais.
Oui.
Est-ce que tu es aussi aride en anglais? Est-ce que c'est raide?
Oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. D'habitude, j'écris mes shows en français avant. Fait que c'est la même chose, mais avec des jokes que je fais plus en français depuis 2-3 ans.
Donc, tu recycles en anglais.
C'est exactement, c'est ça. Je suis le seul humoriste qui vole ses propres jokes.
Et ça, est-ce que c'est une autre business?
Ça, c'est rare. Ouais.
Est-ce que c'est une autre business carrément? Comment t'es perçu dans le milieu anglophone?
Ben, je suis bien perçu. Je pense que je suis moins connu, mais plus respecté en anglais. Et je pense qu'il y a une des raisons. J'aurais pu, quand j'ai commencé en anglais ou quand j'ai recommencé il y a à peu près 10 ans, j'aurais pu appeler Just for Rire et dire, hey, mettez-moi sur Just for Laughs. Mais je l'ai joué comme tout le monde. J'allais aux auditions, la part des Américains qui me connaissent savent pas que je suis connu en français au Québec. Fait que il y en a beaucoup même, tu sais, que je vois juste sur le circuit un peu international, qui pensent que je suis à New York ou LA. Puis ça, j'aime ça. Je veux pas être le gars qui est juste là parce que c'est une star au Québec ou qui est là. Tu sais, je veux pas être à Just for Laughs parce qu'ils ont une subvention spéciale pour moi. Tu sais.
Et tu le dis clairement pendant ton spectacle, tu as fait une dépression.
Oui.
Jusqu'à quel point ça t'a servi dans la vie?
Ça m'a... humoristiquement, moi, à chaque fois que j'ai eu des périodes dures dans ma vie, je suis tout le temps sorti plus drôle. Mais c'est dur à vivre, mais tu sais, quand ma mère est décédée, après sa mort, je sentais que j'avais monté de niveau en humour. Même chose, ma femme que je suis avec, elle m'avait laissé en 2002 pendant un an, puis ça m'avait rendu plus drôle. Puis ma dépression, je pense là que je suis complètement sorti. Je suis un meilleur humoriste que j'étais avant. Un peu grâce à ma dépression, sauf que c'est la pire façon de devenir drôle, là, tu sais. Tu veux pas passer 2 ans en coton été à pleurer dans le bain pour dire un jour, je vais être meilleur.
Est-ce que t'as peur de plus être drôle à un moment donné? Est-ce que c'est la hantise d'un humoriste?
C'est tout le temps ça. Parce que moi, je vois l'humour, c'est quasiment comme un sport. Mais tu sais, on est les sportifs les plus gras puis mous. Mais c'est que souvent, ben, je pense, c'est même pas l'âge des fois qui rend un humoriste moins drôle, c'est juste le fait de tomber dans ses patterns. Moi, j'essaie tout le temps, à peu près aux 5 ans, de changer la façon que j'écris pour pas que... J'aime pas ça, moi, quand je vais voir un humoriste, t'as vu son deuxième show, son troisième, son quatrième, sont identiques. Puis moi, mes shows ont pas mal tout été différents, sauf mes deux derniers avant, je les avais écrits un après l'autre, puis de la fin, même façon. Fait que les deux shows, c'était quasiment la même chose. On sentait vraiment que c'était le même gars qui arrivait avec la même angle. Puis j'aime pas ça. J'aime ça que chaque show, tu sens que, OK, il a changé de quoi dans son écriture. Moi, j'écris toute seule parce que ça serait plus efficace si j'avais quelqu'un avec moi pour m'aider. Mais ce que j'aime d'être seul, c'est que je mise plus sur l'originalité que l'efficacité. Puis ça a toujours été plus important pour moi.
Avant de te laisser aller, t'as ouvert une porte tantôt quand tu dis « Je suis le seul humoriste qui pique ses propres jokes dans une autre langue. » T'as déjà fait des sorties là-dessus.
Oui.
Pointant du doigt certains humoristes ici au Québec. On a parlé beaucoup de Gad Elmaleh qui pique du matériel à peu près tout le monde, finalement, à ce qu'on comprend. Ça existe ici, là.
Ça existe ici, mais ici, c'est pas un problème. Ici, c'est déjà arrivé. Puis les problèmes se sont tout le temps réglés. Tandis qu'en France, ils font comme si c'est pas un problème.
Okay.
C'est vraiment ça. J'ai l'impression, puis c'était pour ça que j'ai piqué des humoristes québécois qui le faisaient. Puis après, j'ai
déjà nommé, là, t'es
dit. Oui. Mais j'ai arrêté parce qu'eux ont arrêté. Se sont calmés. Mais en France, je le faisais beaucoup pour Gad Elmaleh. Puis même, au début, j'avais juste l'air d'un gars jaloux parce que le monde, tu sais, vu que j'ai une carrière en anglais qui vaut pas aussi bien que la carrière à Gad en anglais, fait que je chantais qu'il y avait bien du monde qui faisait « Bon, check Mike Ward qui est jaloux parce qu'il n'y a pas le numéro de téléphone à Seinfeld. » Mais pour moi, c'était important parce que la France, l'humour français, les jeunes humoristes français sont vraiment bons pis sont vraiment originales. Puis je trouve ça plate que la vieille génération qui volait des jokes, qui volait des numéros complets, c'est ça qu'on pense quand on pense à l'humour français.
Tu sais que la semaine prochaine, il y a une série qui sort sur Netflix
avec
Gad Elmaleh.
Ouais.
C'est comme son arrivée à New York.
Ouais, ouais,
vas-tu
ouais.
regarder?
Non, je regarderai pas. Puis j'ai remarqué que Netflix, on met pas beaucoup, on dirait qui regrette de l'avoir produit parce qu'il y a aucune, il en parle aucunement sauf des réseaux sociaux à Gade. T'sais, sur le compte de Netflix, il en parle pas. Puis aussitôt qu'il en parle, là il y a 150 000 messages de Français ou de Québécois. Qui remettent un peu à leur place.
Mais on a demandé d'avoir des épisodes en avance ou de lui parler, puis effectivement, on nous a dit, vous n'aurez pas d'épisode en avance, puis vous y parlerez pas.
Peut-être qu'on va être capable d'y parler, pour avoir écouté ton entrevue, il va venir nous redire la même affaire.
on va t'arranger ça pour Seinfeld. Merci. Merci beaucoup, Mike Ward.
Merci d'être venu nous voir.
C'est le meilleur temps de finir, je viens de perdre ma voix.
Ouais. Bonne chance. 9h33.